Après plus d'une année de chiffres systématiquement mauvais, nous avons enfin vu la lumière au bout du tunnel. Le rapport sur l'emploi de mars 2010 indiquait 162 000 chômeurs de moins, le premier mois de croissance économique substantielle depuis 2007. Lorsque Larry et Christina Römer sont venus m'annoncer la nouvelle dans le bureau ovale, nous nous sommes tapés dans la main et je les ai nommés « employés du mois ». Est-ce qu'on va avoir droit à une plaque, monsieur le président ? M'a demandé Christy. On n'a pas les moyens d'acheter des plaques, ai-je répondu, mais vous avez le droit de crâner devant le reste de l'équipe. À leur tour, les rapports d'avril et de mai se sont révélés positifs, laissant envisager la possibilité encourageante que nous sortions enfin la tête de l'eau. À la Maison-Blanche, personne n'aurait songé à sabler le champagne pour un taux de chômage dépassant encore les 9%. Mais nous sommes tous convenus que, sur le plan politique autant qu'économique, il était raisonnable de commencer à instiller un peu d'optimisme dans mes discours. Nous réfléchissions même à une tournée nationale pour le début de l'été, lors de laquelle je mettrais en avant les villes qui rebondissaient et les entreprises qui se remettaient à embaucher. Nous comptions l'appeler « l'été de la relance ». Et soudain, la Grèce a implosé. Bien que la crise financière soit partie de Wall Street, ses répercussions avaient été tout aussi sévères en Europe qu'aux États-Unis. Plusieurs mois après le redémarrage de l'économie américaine, l'Union européenne restait engluée dans la récession. Ses banques étaient fragilisées, ses principales industries souffraient toujours de la chute du commerce mondial, et dans certains pays, le chômage pouvait atteindre les 20%. Les Européens n'avaient pas subi un effondrement brutal du secteur du logement, et leur filet de sécurité, plus généreux que les nôtres, avait amorti l'impact de la récession sur les populations les plus vulnérables. Toutefois, une sollicitation plus forte des services publics, associée à une baisse des rentrées fiscales et au renflouement continu des banques, faisait peser une pression extrême sur les budgets nationaux. Or, contrairement aux États-Unis, qui pouvaient financer leurs déficits croissants avec des taux d'intérêt très bas, même en pleine crise, car les investisseurs, même les plus prudents, continuaient à se ruer sur nos bons du trésor, des pays comme l'Irlande, le Portugal, la Grèce, l'Italie et l'Espagne avaient des difficultés de plus en plus importantes à emprunter. Quand ils tentaient d'apaiser les marchés financiers en diminuant les dépenses publiques, ils ne faisaient que freiner une demande agrégée déjà faible et aggraver la récession, ce qui, en retour, creusait le déficit budgétaire, augmentait le besoin d'emprunter à des taux encore plus élevés et déstabilisait encore plus les marchés financiers. Nous ne pouvions pas nous permettre de rester les bras croisés. Les problèmes de l'Europe ralentissaient fortement la reprise américaine. L'Union européenne était notre premier partenaire commercial et les marchés américains et européens étaient pratiquement siamois. Tim et moi avons passé une bonne partie de l'année 2009 à presser les dirigeants européens de se retrousser les manches pour amender leur économie. Nous leur avons conseillé de régler la question des banques une fois pour toutes. Le test de résistance que les régulateurs de l'UE avaient fait passer à leurs organismes financiers était tellement bâclé que plusieurs banques irlandaises avaient appelé l'État à la rescousse, alors que l'UE avait certifié leur solidité quelques mois plus tôt. Nous avons poussé les pays européens les plus vaillants à entreprendre des politiques de relance comparables à la nôtre, afin de donner un coup de fouet à l'investissement des entreprises et d'augmenter la demande des ménages sur tout le continent. Tout cela n'a absolument rien donné. Bien que l'Europe soit socialement à gauche à l'aune des critères américains, ses économies dominantes étaient dirigées par des partis de centre-droit, élus sur une promesse d'équilibre budgétaire et de réforme libérale, et non pas sur une augmentation des dépenses publiques. L'Allemagne en particulier, le véritable moteur économique de l'UE et son membre le plus influent, continuait à voir dans la rigueur budgétaire la réponse à tous les problèmes. Plus j'apprenais à connaître Angela Merkel, et plus je l'appréciais. Je la trouvais sérieuse, honnête, intellectuellement exigeante et instinctivement bienveillante. Mais c'était aussi un tempérament conservateur, ainsi qu'une politicienne aguerrie qui connaissait ses électeurs. Et chaque fois que je suggérais que l'Allemagne montre l'exemple en investissant dans les infrastructures ou en baissant les impôts, elle déclinait poliment mais fermement. « Oui, Barack, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure approche pour nous », me disait-elle, les traits un peu pincés, comme si je venais de lui faire une proposition indécente. Il ne fallait pas compter sur Sarkozy pour faire contrepoids. En privé, il se montrait favorable au principe d'une relance économique, surtout au vu du taux de chômage de la France. « Ne vous en faites pas, Barack, je vais m'occuper d'Angela, vous verrez. » Mais il avait du mal à prendre ses distances avec le conservatisme budgétaire qu'il avait autrefois prôné, et dans la mesure où il n'était pas suffisamment organisé pour définir un projet clair pour son pays, je ne voyais pas comment il allait y parvenir pour le reste de l'Europe. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Gordon Brown était d'accord avec nous sur la nécessité pour les gouvernements européens d'augmenter leurs dépenses publiques à court terme. Mais le Parti travailliste devait perdre sa majorité au Parlement en mai 2010 et Brown serait remplacé par le conservateur David Cameron. Ce dernier, âgé d'une petite quarantaine d'années et formé à Eton, arborait une mine juvénile et une désinvolture étudiée. Lors des sommets internationaux, il commençait toujours par retirer sa veste et desserrer son nœud de cravate. Et, outre une maîtrise impressionnante de tous les sujets, il avait la verve et la confiance évidente d'une personne pour qui la vie n'avait pas été trop rude. Je l'appréciais personnellement, même lorsque nous étions à couteau tiré, et pendant les 6 années à venir, il se révélerait un partenaire enthousiaste sur quantité de dossiers internationaux, aussi bien le réchauffement climatique, il ne remettait pas la science en cause, que les droits fondamentaux, il était favorable au mariage pour tous, ou l'assistance aux pays en développement. Durant son mandat, il était parvenu à allouer 1,5% du budget du Royaume-Uni à l'aide internationale, bien plus que tout ce que je réussirais jamais à faire voter par le Congrès. En matière économique, toutefois, Cameron ne déviait pas de l'orthodoxie libérale. Ayant promis à ses électeurs un programme de réduction du déficit et de coupes dans le service public, qui, combiné à une réforme des régulations et à une politique d'expansion commerciale, devait propulser le Royaume-Uni dans une ère de compétitivité renouvelée. Au lieu de cela, sans grande surprise, l'économie britannique allait plonger encore plus profondément dans la récession. L'obstination des plus grands dirigeants européens à défendre l'austérité, alors que tous les faits dictaient le contraire, était extrêmement énervante. Mais j'avais d'autres dossiers sur le feu, et la situation de l'Europe ne m'empêchait pas de dormir la nuit. Cela avait commencé à changer en février 2010, quand la dette souveraine de la Grèce avait menacé de faire voler l'UE en éclats, et nous avait obligés, mon équipe et moi, à faire des pieds et des mains pour éviter une nouvelle panique financière mondiale. Les problèmes économiques de la Grèce n'étaient pas neufs. Depuis des décennies, le pays souffrait d'une productivité faible, d'un secteur public hypertrophié et inefficace, d'une fraude fiscale massive et d'un financement des retraites intenable. Pourtant, tout au long des années 2000, les marchés de capitaux du monde entier s'étaient fait un plaisir de combler les déficits croissants de la Grèce, de même qu'ils n'avaient pas hésité à financer tout un tas de prêts hypothécaires à risque aux États-Unis. Et puis, la crise de Wall Street est arrivée, et leur générosité est retombée. Lorsque le nouveau gouvernement grec a annoncé que le déficit budgétaire dépasserait largement les précédentes estimations, les actions des banques européennes ont plongé et les bailleurs de fonds internationaux ont renaclé à prêter davantage à la Grèce. Tout à coup, le pays était au bord du défaut de paiement. En temps normal, l'éventualité qu'un petit État ne paie pas ses factures à temps aurait eu un effet limité à l'extérieur de ses frontières. Le PIB de la Grèce équivalait environ à celui du Maryland, et d'autres pays confrontés à des situations semblables étaient parvenus à négocier des accords avec leurs créanciers et le FMI, de façon à restructurer leurs dettes, conserver leur solvabilité internationale et se remettre d'aplomb. Mais en 2010, les conditions économiques n'étaient pas normales. Du fait du rattachement de la Grèce à une Europe déjà flageolante, ces problèmes de dette souveraine étaient un bâton de dynamite lancé dans un entrepôt de munitions. La Grèce, faisant partie du marché commun, au sein duquel les entreprises et les personnes travaillaient, voyageaient et commerçaient selon une législation unifiée et sans tenir compte des frontières nationales, ces problèmes économiques se sont librement exportés. Des banques d'autres États membres figuraient parmi ses plus gros bailleurs de fonds. En outre, la Grèce était aussi l'un des 16 pays ayant adopté l'euro. Elle ne pouvait donc pas dévaluer sa monnaie ni mener de politique monétaire indépendante. Sans mesure de sauvetage urgente et ambitieuse des pays de la zone euro, la Grèce risquait de devoir se retirer de la convention monétaire, un acte inédit aux ramifications économiques incertaines. Déjà, les craintes des marchés faisaient flamber les taux d'intérêt des prêts consentis par les banques à l'Irlande, au Portugal, à l'Italie et à l'Espagne pour rembourser leurs dettes souveraines. Tim, lui, redoutait qu'un défaut de paiement et ou une sortie de la Grèce de la zone euro ne pousse les marchés de capitaux à couper dans la foulée les crédits à ces autres pays, causant au système financier un choc aussi important, voire pire, que celui que nous avions connu. « Je me trompe ?» ai-je demandé à Tim alors qu'il venait de m'exposer plusieurs scénarios terrifiants. « Ou on n'est pas encore sorti de l'auberge ?» Voilà comment, du jour au lendemain, la stabilisation de la Grèce est devenue notre priorité économique et diplomatique numéro un. Ce printemps-là, en face à face ou par téléphone, Tim et moi avons commencé à tanner la Banque Centrale Européenne et le FMI afin qu'ils décrètent un plan de sauvetage assez solide pour calmer les marchés et permettre à la Grèce de rembourser sa dette, tout en aidant le nouveau gouvernement à mettre sur pied un dispositif réaliste de réduction de ses déficits structurels et de restauration de sa croissance. Pour éviter un effet de contagion, nous avons aussi recommandé aux Européens de construire un pare-feu. En gros, un fonds d'emprunt commun suffisamment doté pour montrer aux marchés de capitaux que, en cas d'urgence, la zone euro couvrait les dettes de ses membres. Sur ce point non plus, nos homologues européens ne partageaient pas notre vision. Les Allemands, les Néerlandais et beaucoup d'autres considéraient que les Grecs s'étaient mis dans le pétrin tout seuls à cause de leur gouvernance négligente et de leurs pratiques dispendieuses. Merkel avait beau me jurer que l'Europe n'allait pas faire une Lehman en laissant la Grèce passer en cessation de paiement, elle et son ministre des Finances, le très austère Wolfgang Schäuble, semblaient décidés à conditionner toute aide à une pénitence proportionnelle, même si nous les avertissions qu'il serait contre-productif de trop serrer la vis à une économie déjà mal en point. Ce désir d'infliger à la Grèce un châtiment biblique et de décourager les risques subjectifs se lisait en filigrane dans l'offre initiale de l'UE. Un prêt de 25 milliards d'euros maximum, tout juste de quoi payer 2 mois de dette grecque, à la condition que le nouveau gouvernement sabre les retraites, augmente les impôts et gèle les salaires des fonctionnaires. Ne souhaitant pas commettre un suicide politique, et alors que la population avait réagi à l'annonce de la proposition européenne par une série de grèves et d'émeutes, le gouvernement grec a décliné. Le premier projet de pare-feu européen ne valait pas beaucoup mieux. Le montant suggéré par les autorités de la zone euro pour abonder le fonds d'emprunt, 50 milliards, était dramatiquement insuffisant. Au téléphone, Tim a expliqué au ministre des Finances que, pour servir à quelque chose, ce chiffre devrait être multiplié au moins par 10. Les responsables de la zone euro exigeaient aussi que, pour qu'un pays puisse accéder à ce fonds, ses porteurs de bons acceptent un certain pourcentage de pertes sur ce qui leur était dû. Cette idée était parfaitement compréhensible. Après tout, quand les bailleurs de fonds prêtaient, ils appliquaient un taux d'intérêt censé couvrir le risque de non-remboursement. Mais sur le plan pratique, cette obligation aurait pour conséquence que les capitaux privés rechigneraient davantage à prêter à des pays déjà lourdement endettés comme l'Irlande ou l'Italie, ce qui était contraire au but premier du pare-feu. J'avais l'impression d'assister à une rediffusion des débats que nous avions eus aux États-Unis dans le sillage de la crise de Wall Street. Et même si ce que Merkel, Sarkozy et les autres dirigeants européens devaient faire m'apparaissait parfaitement clair, j'avais de l'empathie pour eux dans cette situation politiquement complexe. Moi aussi, je m'étais arraché les cheveux en m'évertuant à convaincre les électeurs américains qu'il fallait utiliser l'argent du contribuable pour renflouer les banques et aider leurs compatriotes à éviter l'éviction ou le chômage. Et à présent, je demandais à Merkel et à Sarkozy de convaincre leurs électeurs qu'il fallait renflouer des étrangers. Je me suis alors rendu compte que la crise de la dette grecque était autant un problème de finance mondiale que de géopolitique, et qu'il révélait des apories nichées au cœur de plusieurs décennies d'intégration européenne. Dans l'ivresse de la chute du mur de Berlin, puis dans les années de restructuration méthodique qui l'ont suivi, la grande architecture de ce projet, le marché commun, l'euro, le Parlement européen et une bureaucratie bruxelloise habilitée à réglementer tout un éventail de secteurs, traduisait une croyance optimiste dans le potentiel d'un continent réellement unifié, débarrassé des nationalismes toxiques qui avaient alimenté des siècles de guerres sanglantes. Et l'expérience avait été remarquablement concluante. En contrepartie de l'abandon d'une part de leur souveraineté, les États membres de l'Union européenne avaient joui d'une paix et d'une prospérité qu'aucun groupe humain n'avait peut-être encore jamais connue. Mais les identités nationales, les différences de langue, de culture, d'histoire et de développement économique, ont la vie dure. Et à mesure que la crise économique s'aggravait, toutes ces différences que les périodes fastes avaient gommées ont commencé à ressurgir. Les habitants des pays les plus riches et productifs étaient-ils prêts à endosser les obligations d'un voisin ou à voir l'argent de leurs impôts redistribué hors de leurs frontières? Les habitants des pays en détresse économique accepteraient-ils les sacrifices imposés par des fonctionnaires lointains avec qui ils n'avaient aucune affinité et sur qui ils n'avaient pratiquement aucun pouvoir? Les discussions autour de la Grèce s'envenimaient. Et dans certains pays fondateurs de l'UE, tels que l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, il arrivait que le débat public dérive d'une condamnation des politiques de la Grèce à une mise en cause directe de son peuple, prétendument moins sérieux au travail, ou plus complaisant avec la corruption, ou encore estimant que des responsabilités aussi élémentaires que le paiement des impôts étaient facultatives. Ou encore, pour reprendre les mots d'un fonctionnaire de l'UE de nationalité indéterminée qui parlait avec un collègue pendant que je me lavais les mains dans les toilettes d'un sommet du G8, ils ne pensent pas comme nous. Merkel, Sarkozy et les autres tenaient trop à l'unité européenne pour s'abaisser à ce genre de clichés. Mais leur politique leur imposait la plus grande prudence avant d'accepter un quelconque plan de sauvetage. J'ai remarqué qu'ils évoquaient rarement le fait que des banques françaises et allemandes étaient parmi les principaux créanciers de la Grèce, ou qu'une grande partie de la dette du pays provenait de l'achat d'exportations françaises et allemandes, des éléments qui auraient permis à leurs électeurs de comprendre pourquoi sauver la Grèce revenait à sauver leurs propres banques et industries. Peut-être craignaient-ils que ces révélations ne fassent oublier les échecs des gouvernements grecs successifs et ne soulignent les manquements des fonctionnaires allemands et français chargés de surveiller les banques prêteuses. Ou bien voulaient-ils éviter que leurs électeurs ne comprennent toutes les conséquences de l'intégration européenne, le fait que, dans une large mesure, leur destin économique était lié, pour le meilleur et pour le pire, à celui de personnes qui n'étaient pas comme eux et ne les trouvent pas à leur goût. Toujours est-il que, au début du mois de mai, les bourses étaient dans un état tellement effrayant que les dirigeants européens ont dû se rendre à la réalité. Ils ont donné leur aval à un plan de financement abondé conjointement par l'UE et le FMI et couvrant les paiements de la Grèce sur 3 ans. Ce plan comprenait néanmoins des mesures d'austérité, et si toutes les parties en présence savaient que le gouvernement grec ne pourrait les appliquer à cause de leurs coûts, du moins fournissait-elle au gouvernement de l'UE la couverture politique sans laquelle ils auraient refusé. Plus tard cette année-là, les pays de la zone euro ont aussi accepté timidement d'élever leur pare-feu jusqu'au montant suggéré par Tim et abandonné la décote obligatoire. Les marchés financiers européens ont connu des hauts et des bas pendant toute l'année 2010, et la situation restait précaire non seulement en Grèce, mais aussi en Irlande, au Portugal, en Espagne et en Italie. Faute de pouvoir régler de force les problèmes profonds de l'Europe, Tim et moi avons dû nous contenter de désamorcer temporairement une bombe de plus. Quant aux effets de la crise sur les États-Unis, la reprise qu'affichait notre économie en début d'année s'est arrêtée net. Les nouvelles de la Grèce ont fait chuter les bourses. La confiance des entreprises, mesurée par des enquêtes mensuelles, était-elle aussi en berne ? Et cette incertitude nouvelle leur faisait différer des investissements pourtant programmés. Le rapport sur l'emploi de juin a marqué un retour dans le négatif, où nous allions rester jusqu'à l'automne. L'été de la relance s'était transformé en pétard mouillé.